On va commencer. Première chose du Seder, Kadesh. Kadesh, Kiddush. Dans les Kiddush, qu'est-ce qu'on prend? On prend un verre, si possible en argent. Avant les Kiddush, on va rincer le verre. Et ça, d'après la mystique juive. D'après pas la mystique juive, d'après le sens simple, si le verre n'est pas propre, il faut le rincer avant. Nos verres sont propres d'habitude. D'après la mystique juive, tous les verres, il y aura 4 verres de vin durant le Seder. Chaque kiddush durant toute l'année, kiddush du soir, il est bien après mystique juive de le rincer à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, en passant la main dedans, à l'extérieur, il suffit même de l'eau sans le rincer, d'après mystique juive. Donc on va prendre son verre, si possible en argent, d'après mystique juive. Et on va verser dedans du vin. Quel vin? Avant de voir peut-être lequel vin, on va montrer, on va expliquer à quel point il est important d'avoir du bon vin. Le vin, bon, quand je dis bon, c'est pas qu'il soit bon au goût, d'accord, bon du point de vue de l'halakha, parce qu'on a mis ça très importante de 4 verres de vin. Un point tel Shouchana Ohri dit, un pauvre qui n'a pas de quoi s'acheter du vin, qui vende ses habits pour acheter du vin pour le soir de Pessah. Il y a une mitzvah très grande d'acheter du vin, on a 4 verres. Ces 4 verres seront répartis 2 avant le repas, 2 après le repas. Nous, la mystique juive, c'est une chose qui est très grande aussi, parce que la matzah qui est blanche, elle correspond à la... C'est le message de la Torah. C'est le flux de Dieu qui vient, qui est pur, qui émet la vérité de Dieu, splendide. Mais nous aussi, il faut qu'il y ait un réveil de notre côté. Ça correspond, on prendra du vin rouge, c'est possible, comme on va l'expliquer, ça correspond à nous. C'est le message des Rabbanan. Tout ce qui est de la Torah vient de Dieu, ce qui est des Rabbanan, ça vient de nous. C'est des Rabbanan de faire les 4 verres de vin. On prendra du vin rouge et on en prendra 4. Pourquoi pas une fois la matzah? Il n'y a qu'une fois, normalement, du point de vue de la Torah. 4 parce que Dieu, il envoie une fois un flux, ça suffit. Nous, pour nous réveiller sans cesse, on doit sans cesse nous réveiller, nous rapprocher vers Dieu. Donc il y aura un verre de vin avant la Haggadah, dans le Kiddush, un verre de vin à la fin de la Haggadah avant le repas, un verre de vin après Birkat Hamazon après le repas, et un verre de vin à la fin du Hallel, tout à la fin du soir du Seder. Ces 4 verres de vin sont obligatoires. Si quelqu'un y boit du vin et à cause de cela il tombe malade, alors il est désengagé de l'obligation. Mais s'il a des maux de tête, la Gemara dit que Rabba, jusqu'à Atzer, c'est jusqu'à Shavuot, il tenait sa tête comme ça avec des serviettes sur la tête serrées, à cause des maux de tête qu'il avait à cause de 4 verres de vin du soir du Seder.
Et le jus de raisin?
Non, on va y arriver. Ces 4 verres sont par rapport à quoi? Par rapport aux 4 langages que Dieu a employés lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais sortir maintenant le peuple d'Israël d'Égypte. « Vehotseti, je vous sortirai. Vetsalti, je vous sauverai. Vegaalti, je vous sauverai aussi. Mais la carte, je vous prendrai dans la terre que j'ai promis à vos ancêtres. » Donc, il y a 4 vers. On dit aussi par rapport aux 4 royautés dans lesquelles le peuple d'Israël a été en exil. Babylone, Perse, Grèce, Rome. Par rapport aux 4 vers de consolation que Dieu nous abreuvera à la fin des temps. Quand bientôt, très bientôt, vient le Mashiach, alors il y aura une grande consolation, il y aura beaucoup de bien, 4 verres que Dieu nous faire boire de consolation. Par rapport aussi aux 4 générations desquelles Bnei Israël en Égypte ont été les Gilgoulim, ont été les réincarnations. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, qui n'a rien fait à personne, il va 210 ans d'esclavage en Égypte? C'est pas très gentil, hein? Et où est la justice de Dieu? C'est pas 5-6 ans de Shoah. C'était 210 ans d'esclavage d'univers concentrationnaire égyptien. Tous les jours, Pharaon, il faisait un bain où il égorgeait 300 petits bébés et il était lépreux pour guérir d'une salade, pour faire un bain dans un bain de sang. Et quand il manquait une pierre, on prenait le gosse du juif, on le mettait à la place de la pierre. C'était presque comme Auschwitz, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, la mystique juive nous dit, sache que ces âmes-là qui sont venues de Béni Israël sont les réincarnations de 4 générations qui ont fait des péchés terribles. La génération de Enoch, le petit-fils de Adam, à leur époque, les hommes ont commencé à faire l'idolâtrie, Avodah Zara. Ensuite, génération du Maboul. Maboul, c'est le déluge. Ensuite, génération de Sodome, les Sodomains, Sodoméens, d'accord, Sodome Varmora. Et 4e du Dor Haflaga, c'est la tour de Babel. ces quatre générations qui sont revenues chaque fois en Gilgoul et ont encore enfoncé, encore enfoncé, encore enfoncé, il fallait réparer tout pour pouvoir recevoir, ce sont les âmes du Béné Israël qui étaient dans ces générations-là, parce que la Torah nous raconte cette histoire-là, ce n'est pas une histoire préhistorique, c'est l'histoire de la réalité des âmes, et on sort d'Égypte pour recevoir la Torah, et là, tout le tikkun, la réparation a été faite. D'ailleurs, le Rav Frida a donné un très beau signe que je faut que je retrouve, oui, c'est marqué dans la Torah, Hamotzi etrem mitachat tzilot mitzraim, un verset. Dieu qui vous a sorti des souffrances d'Égypte. Hamotzi etrem mitzilot mitzraim. Tu prends les premières lettres de chacun de ces mots-là. Hamotzi, hey, c'est haflaga. Etrem alef, c'est enosh. Misivlot, c'est maboul. Misivlot, mitachat, c'est maboul. Sivlot, c'est sdom. On a les rachetés votes et acrostiches première lettre de ces quatre générations-là. Donc par rapport à ces quatre générations, on prendra ces quatre verres de vin. Et bien sûr, au niveau de la mystique juive, il y a sûrement des choses beaucoup plus profondes, ça correspond à la bina, des choses que je ne sais pas ce que c'est, qui sont très très hautes. Il faut du vin, a priori, du vin rouge. Que vraiment, on n'a rien trouvé, il n'y a pas de vin rien du tout, il n'y a que du vin blanc, alors, a posteriori, s'il n'y a vraiment pas de cas en cas de force majeure, on peut prendre du vin blanc.
Pourquoi tous ces souvenirs sont symbolisés par du vin ? Un verre de vin.
Au niveau de la mystique juive, le verre de vin rouge correspond au dinim. Bina aussi, c'est dinim, c'est-à-dire la rigueur. C'est pour cela qu'avant le kiddush, tous les Shabbat soirs, et là aussi, avant ce kiddush-là, on versera aussi trois gouttes de l'eau. L'eau, c'est chesed, ça vient adoucir la rigueur. Pourquoi trois? C'est dans des détails kabbalistiques.
Vous n'avez pas parlé du jus de raisin.
Alors, j'y arrive. Alors, a priori, quels sont les ordres maintenant? A priori, on prend du vrai... voilà, je vous dis maintenant en ordre. Du mieux au moins bien. Tu veux le moins bien d'abord ou le mieux? On commence par le mieux. C'est du jus de raisin sans cesse, alors tu me pousses vers...
Bon.
Alors, le meilleur, c'est du vin rouge qui n'a pas été cuit. D'après Maïmonide, Rambam, le vin cuit n'est pas valable pour le kiddush. Et ni pour le quatre verres de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il faut un vin qu'on puisse, au niveau de l'époque du temple, ou dans l'idolâtrie Chas et Shalom, un vin qu'on puisse en faire une libation. À l'époque, on faisait des libations de vin dans le temple. Si le vin était cuit, il n'est pas valable. Donc on veut un vrai vin. Un vrai vin, c'est qu'il n'est pas cuit. D'après la mystique juive, j'ai dit, et c'est obligatoire, seulement en cas de force majeure autrement, mais du vin rouge. Donc du vin rouge non cuit, ça c'est le mieux.
C'est quoi du vin non cuit aujourd'hui? C'est du Padoue? C'est quoi? Ça n'existe pas?
Bien sûr, du Golan.
Carmel.
Golan.
Ah, le Golan, il est pas cuit.
Carmel a commencé à faire parce qu'il y a la concurrence avec Golan. Yarden, je vais prendre des pourcentages sur Internet, d'accord, mais... tu prends...
Padoue, c'est hein?
C'est même en France, tu as...
Non, c'est, du vin, c'est pas du vin doux.
Qui n'a pas, c'est pas marqué Mevouchal, c'est pas pasteurisé, ça n'a pas été pasteurisé. Du vin, vin. Prends un vin... Prends un Bordeaux non cachère, un Beaujolais Saint-Émilion 1942, d'accord. Si tu le cuis, tu l'as tué. Un vin cuit, c'est pas un vin, d'accord. C'est un vin de deuxième qualité.
Ça, on peut quand même faire du kilo.
Attends lentement, je dis le mieux. Non, pas d'accord. Le mieux.
D'après
Maïmonide, c'est pas valable. Mais Maïmonide, c'est pas toute la lacha. Johann Ori l'a dit. On peut prendre du vin cuit pour le kiddush, et il y en a qui disent que non. Comme ça dit Shulchan Aruch. On peut prendre du vin cuit pour le kiddush, il y en a qui disent, le Rambam, Maïmonide. C'est pas n'importe qui, Shulchan Aruch, il a rappelé. Donc, a priori, si on peut s'arranger pour avoir la vie, récupérer la vie du Rambam aussi, que Rambam dise aussi, tu as fait le kiddush une fois dans ta vie, contrairement au Lamaba, alors tu prends, si possible, du vin non cuit. S'il n'y a pas, tu prends du vin cuit. On descend. On descend de degré. Si tu ne peux pas, le vin. Parce que tu as jeûné toute la journée, tu es de nature délicate, et si tu bois deux vins comme ça à jeun, ou deux vins même pas à jeun parce que tu n'as pas jeûné, mais avant le repas, on verra qu'il faut boire si possible 86 millilitres d'un coup, comme ça d'un coup, tu sens que toute la soirée tu ne pourras pas la faire, tu vas être complètement à côté de la plaque, et c'est dommage ce soir d'être à côté de la plaque, alors on autorise du jus de raisin. Dans le jus de raisin, on aura deux options, ou jus de raisin cuit ou non cuit. Si possible, non cuit, c'est beaucoup mieux. C'est très dur à trouver, parce que pour faire du jus de raisin, il faut toujours... Comment on fait du jus de raisin? On prend du raisin, et le raisin, jus de raisin, il fermente, il devient du vin. Comment on l'empêche de devenir du vin? On le cuit. La combine qu'on fait, c'est qu'on prend du jus de raisin, et on le gèle, on le congèle. Il reste jus de raisin. Après, tu sors la veille de Pessah, tu sors ta bouteille et tu as du bon jus de raisin non cuit. Celui qui ne pourra pas prendra du jus de raisin cuit. Néanmoins, pour les hommes, il y a une mitzvah, et il faut penser quand on boit le vin, il faut penser aussi à cette mitzvah-là. Tu seras heureux, tu te réjouiras le jour de ta fête. Comment on se réjouit? Avec de la viande, avec du vin. Pas avec du jus de raisin. C'est dommage de rater cette grande mitzvah. Donc au moins un des verres, tu boiras du vin. On conseillera, pour ceux qui sont possibles, de prendre le quatrième verre. Après tu vas dormir de toute façon, n'est-ce pas? Le quatrième verre avant d'aller dormir, glou glou, tu bois du bon vin. Pour ceux pour qui c'est dur aussi de boire du vin, alors il peut mélanger du vin avec du jus de raisin parce qu'il y a aussi de la joie.
C'est comme du vin.
Alors il est yossé, moitié-moitié. Point de vue du vin, c'est pas du vin, mais point de vue de la simcha, de faire la mitzvah, de se réjouir le jour de Yom Tov, de fête, si tu as du vin mélangé avec du jus de raisin, tu es rendu quitte. C'est valable. On peut couper avec un peu d'eau, comme je dis. Il faut le couper avec un peu d'eau.
Non, mais ça, c'est... Au lieu de faire moitié jus de raisin, moitié vin, je mets moitié vin, moitié eau.
Moitié, c'est déconseillé, parce qu'aujourd'hui, nos vins sont très légers. Rav Eliashiv dit que même avec un tout petit peu d'eau, déjà, il perd son goût de vin. Après, à la halakha stricte, tant que ça a un vrai bon goût de vin, ça va. Donc tu peux le couper, mais très peu.
Un verre de jus de raisin. Mettre ces 3 gouttes d'eau pour le...
Oui, aussi. Aussi pour le kidouche. Si quelqu'un maintenant fait kidouche sur un verre de jus de raisin, il mettra les 3 gouttes d'eau aussi.
Mais ça marque tard. Parce que le vin, ça enivre ou parce que c'est un signe de...
Non, pas parce que ça enivre, parce que c'est la joie. Ça nous met en état de joie. C'est marqué, il y a un verset. « Yain yesamach levav enosh » Le vin réjouit le cœur des hommes. Maintenant, qui a l'obligation de se réjouir le jour de Yom Tov avec du vin, hein? Les hommes, pas les femmes. Donc les femmes, elles veulent boire du jus de raisin, elles boivent du jus de raisin toute la soirée. On leur conseille de boire du jus de raisin. Tu ne veux pas avoir ta femme comme ça à la fin de la soirée. D'accord? Il suffit qu'il y ait déjà l'homme qui est comme ça, d'accord? Donc, les femmes, les enfants, tout ça, ils boivent du jus de raisin sans problème, cuit, pas cuit. Pas cuit si on peut, sinon cuit. Ok, donc je répète, en récapitulation, le mieux du vin rouge, non cuit, sans additif, sans rien, du vrai pur, après du vin rouge cuit, après jus de raisin non cuit, après jus de raisin cuit. Et pour les hommes, au moins un verre de vin durant toute la soirée, si on peut même pas ça, un verre de vin mélangé avec du jus de raisin. Et on commence le kiddush. Ok, les 4 verres de vin, il faut que ce soit 4 verres, et pas des quarts de verre et pas des tiers de verre. Alors on va parler maintenant des quantités de vin nécessaires ou de jus de raisin, pour ceux qui prennent le jus de raisin, pour la mitzvah des 4 verres de vin. On va aller du mieux jusqu'au moins bien. Il faut boire, nous les Sfaradim, il faut boire 86 millilitres. Je connais les Zim, ils sont marqués comme le Razonich, 150 millilitres. Nous, 86 millilitres, il y a un moyen mnémotechnique de se rappeler, kos verre, valeur numérique en hébreu, 86. C'est un pur hasard, mais ça tombe bien. Ashkenazim aussi, ils ont un truc, c'est Kos Hagoun. Un bon verre, c'est 150 ml en gématria, en valeur numérique aussi. Donc ça tombe très bien. 15 ml, passe-moi ici le verre jetable, c'est grosso modo quelque chose comme ça. C'est pas compliqué, tout le monde a des enfants à la maison, on prend un biberon, on regarde 86 ml, tu mets 100 pour être certain, comme ça, 90, 100, c'est à peu près comme ça. Si possible, on prendra un verre qui fait un tout petit peu plus. Parce qu'il y a une mitzvah de boire, le mieux c'est boire tout le verre. Tout le verre. C'est un verre qui fait 3 décis, t'es KO. Il y a une mitzvah, d'après le Rosh, le Tosfot, la Halakha n'est pas comme ça. Shulchan Aruch dit, tu bois ou tout ou la majorité. Mais il y a un avis quand même, des avis de grands Rishonim, Tosfot et le Rosh, qui disent que de boire tout le verre, sinon on n'est pas rendu quitte. Donc pour être le mieux si possible, si quelqu'un veut faire le mieux, il doit boire tout le verre. Pour ne pas nous rendre la vie trop difficile, on prendra un verre qui a le minimum requis, au moins 86 millilitres. Ça, c'est le mieux. Si quelqu'un ne peut pas boire, n'a pas de petit verre, qu'il prend un grand verre, il ne veut pas boire tout le grand verre, alors qu'il boit au moins la majorité de ce verre, et que dans la majorité, il y ait 86 millilitres. Deuxième choix, solution de deuxième choix, tu bois dans un grand verre, il faut en boire la majorité, pas tout, donc tu n'as plus l'habitude du Roche et d'autres qui sont avec toi, tu prends que la majorité, mais il faut au moins qu'il y ait 86 millilitres. Troisième solution, tu n'arrives pas à boire 86 millilitres, donc tu bois la majorité d'un verre, même si tu n'as pas bu 86 millilitres. Il faut que tu bois, pardon, il faut que tu bois la majorité de 86 millilitres. Donc combien ça fait? 45 millilitres. Je répète, pour soit très clair pour tout le monde, le mieux, boire tout un verre qui fait au moins 86 millilitres. Après, boire pas tout un verre, mais la majorité d'un verre, mais on a bu 86 millilitres. Dernier choix, boire la majorité d'un verre qui sera la majorité de 86 millilitres, donc 45 millilitres. Le mieux, c'est le mieux, le moins bien, c'est le moins bien. Tous est valable. On doit voir cela absolument, si possible absolument, le temps que ça prend de boire 86 millilitres, c'est-à-dire d'un coup. Glou, 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 glou. D'accord? En cas de force majeure, si on n'a pas réussi, on doit s'arrêter au mieux pour respirer ou je ne sais pas ça, ou je ne sais pas quoi, alors ça fait dire qu'il faut reboire. Alors Benson, il dit non. Il dit ça peut aller jusqu'à 4 minutes, tu peux. Donc chacun après son rave, il fera, s'il peut reboire, mieux vaut reboire. Comme ça, tu prends la vitesse royale aussi avec toi. Bien sûr, tout cela penché sur le côté qu'on a expliqué l'avant-dernière fois. Les troisième et quatrième verres de ces quatre verres, il faudra un des deux boire absolument 86 millilitres d'un coup. Le troisième ou le quatrième verre des quatre verres. Pourquoi? Parce que tout à la fin de la Gada, on fait la bracha achrona, la dernière bracha, sur le vin qu'on a bu. On fait bracha achrona que si on a bu 86 millilitres d'un coup. Donc il faudra boire 86 millilitres d'un coup, au moins ou au troisième ou au quatrième, pour que la bracha qu'on fait après le quatrième, elle soit sur le troisième ou sur le quatrième. Ça vaut la peine, pas obligatoire, mais ça vaut la peine. Il y a un petit problème, c'est qu'on fait le kiddush, et on a une loi qui dit « En kiddush elam comme souda ». On fait le kiddush que quand on va manger. Alors le problème, c'est que tu bois, et tu vas manger quand? Dans 2 heures. En passant, tu prends un petit carpas, un petit morceau de céleri, tout petit comme on verra. À part ça, niet. Alors oui, il est où le kiddush au moment où tu vas manger? Il y a un avis qui dit que lorsque tu bois 86 millilitres de vin, c'est considéré comme un repas. C'est Rabbi Yontam qui dit comme ça. Donc, ça vaut la peine que le premier verre aussi, on boit 86 millilitres d'un coup, comme ça on gagne aussi l'avis, cet avis-là qui dit que j'ai fait le kiddush à l'endroit où je mange, au moment où je vais manger. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est pour faire vraiment le mieux. Un enfant, quelqu'un qui a moins de 13 ans pour un garçon, moins de 12 ans pour une fille, on va faire boire maintenant 86 millilitres de vin, d'accord, même du jus de raisin, il n'est pas obligé. Il est obligé, le minimum qu'il doit, c'est boire, on appelle ça melologumav. Melologumav, c'est la majorité de sa bouche. Donc il met maintenant, d'un côté, il met du liquide. Combien ça rentre? S'il a bu ça, ça va. Combien c'est? Ça dépend d'après volume de la joue du gosse. Bon, alors, une fois qu'on sait maintenant quel vin on a, quel vin on doit prendre, dans quel verre on doit prendre, comment on s'y prend? Alors, comme je l'ai expliqué, on met 3 gouttes de vin, d'eau dans le vin. On a auparavant rincé le verre. Et il est important, le soir du Seder, que ce n'est pas nous-mêmes qui servions le verre, mais quelqu'un d'autre. Parce que tu es un roi. Un roi se sert tout seul. Un roi, il a des gens autour qui le servent. Alors, chacun servira à son voisin. Et si tu fais le Seder avec tes parents, tu verses à tes parents, et tu penses que la mitzvah assez de la Torah, de Kibbud Avem. C'est comment honorer son père et sa mère. Le meilleur honorer, c'est marqué, le nourrir et lui donner à boire. Donc là, tu as l'occasion. Allez, non seulement tu peux le faire, alors tu fais la mitzvah de la Torah, de Kibbud Avem, de honorer son père et sa mère, en plus tu fais la mitzvah du Seder, où on doit se servir l'un l'autre. Et là, on va se lever, tout le monde se lève avec le maître de maison a son verre de vin, chacun a son verre de vin, différemment qu'au kiddush où chacun, ou un a le verre de vin pour tout le monde, là chacun a son verre de vin, main droite, on le tient dans la main droite, même ceux qui sont gauchers après la mystique juive, ils tiennent dans leur vin, leur verre dans la main droite, c'est bien après la mystique juive de tenir avec les 5 doigts comme ça, d'accord? Attention de ne pas renverser sur la belle nappe blanche du soir du Seder, et on fait le kiddush. Maintenant, il faut penser beaucoup de choses pendant ce kiddush-là. Le maître de maison qui dit le kiddush doit penser rendre quitte l'assemblée. L'assemblée qui écoute doit penser être rendue quitte par le kiddush que dit le maître de maison. C'est pour cela que l'assemblée ne répondra pas Baruchu Varouchemo, d'après les décisionnaires Sfarad ici en Israël. La coutume marocaine qui dit qu'on peut oui dire, alors ils continueront à le dire, ce n'est pas un problème. On répondra Amen au brachot. Yen bracha de Shehiyanu. Shehiyanu, Vigalos Banazé. On remercie Dieu qu'on a pu exister, vivre jusqu'à ce moment-là. On rend quitte pourquoi on fait cette bracha? Que Dieu nous a fait exister jusqu'à ce moment-là de la fête. On quitte la fête. Mais en plus de cela, il faut penser. Rendre quitte celui qui n'avait pas un nouveau fruit pour l'abdicat hametz. On a vu que l'abdicat hametz qu'on a fait il y a 24 heures exactement, fallait faire, si possible, shechianu sur un fruit nouveau, un nouvel habit. Si on n'avait pas, alors on shechianu du kiddush, on pense rendre quitte l'abdicat hametz de hier. Et on pense rendre quitte les grandes mitzvahs de cette soirée, qui sont le manger la matzah, manger le maror, et raconter la sortie d'Égypte. Donc on pense rendre quitte toutes les mitzvahs qu'il y aura ce soir, dans ce shechianu aussi.
Comment on peut rendre quitte
Rétroactivement, c'est mieux que rien. Maintenant, le maître de maison et l'assemblée devra penser aussi qu'ils sont rendus quittes du kiddush mitzvah des Rabbanan, de faire kiddush à Yom Tov, qu'ils sont rendus quittes maintenant, quand ils vont boire le vin, qu'ils boivent le premier vin des quatre verres mitzvah des Rabbanan du Seder, de boire quatre verres de vin, c'est bien, et moi j'appelle ça toujours à ma famille quand je fais le kiddush, quand on fait le kiddush, de penser deux choses. Pensez d'abord à la bracha qu'on fait boire après à Geffen, elle est valable pour toute la maison. D'après Shulchan Aruch, si quelqu'un quitte la chambre, il doit refaire la bracha. Mais après Ashkenazi, il ne doit pas la refaire. On est en doute. Donc chaque fois qu'on fait une bracha, il faut penser qu'on fait pour toute la maison. Si tu penses, quand tu fais la bracha, bourré prix à Geffen, bourré prix à quoi que tu fasses, que c'est pour toute la maison, il n'y a pas de problème de sortir d'une chambre à une autre. Or forcément, on va sortir du salon maintenant, où on fait le soir du seder pour aller laver les mains. Donc tu reviens maintenant, tu as problème de boire du vin. D'après Shulchan Aruch, tu dois refaire la bracha. Mais après le réma, tu ne peux pas refaire la bracha. Donc tu as un problème de doute de brachot, c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Avant les kiddush, on rappellera l'assemblée. Pensez maintenant que la bracha du Geffen, elle est pour toute la maison. Première chose qu'il faut penser. Deuxième, pensez aussi que par la bracha maintenant du kiddush, je rends quitte toutes les boissons qu'on va boire jusqu'au birkat Amazon. C'est-à-dire dans trois heures. C'est-à-dire le deuxième verre de vin et toutes les boissons, Coca-Cola, qu'est-ce que j'en sais, toutes ces inventions qu'il y a pendant le repas. C'est bien de les rendre quittes avec le verre de vin de maintenant. En tout cas, le verre qui vient après, le verre de vin qui est après, c'est obligatoire de penser rendre quittes. Mais c'est bien aussi de penser rendre quittes toutes les boissons qu'il y aura durant le repas. C'est beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Il faut que le maître de maison note cela sur un papier avant lui. Moi, dans ma gare de Pessah, c'est tout marqué. Et quand j'ai préparé le jour maintenant, j'ai pris ma gare de Pessah, j'ai recopié ça. D'accord? Tout ce qu'on doit dire aux gens, tout ce qu'il faut penser, beaucoup de choses. Oui.
Il faut aussi penser à Chef Yano, rendre quitte le Maroc et la Matzah.
J'ai dit ça. Je l'ai dit, mon cher ami. Et dernière chose qu'il faudra rappeler avant la kiddush, où le maître de maison, dès qu'il a fini, il fait que tout le monde le regarde, il se met de côté pour pas que les gens aient besoin de reprendre un deuxième verre de vin. C'est important de le boire, comme j'expliquais, de le boire de côté. Oui.
En faisant la bracha sur le kiddush, on décide également de se rendre quitte pour les autres boissons. C'est valable pour tous les kiddush?
Oui, pour tous les kiddush, absolument. D'après la race, c'est un problème de boire la boisson dans le repas. Tu as fait un motzi, est-ce que tu peux boire? Oui. Mais il y a trois avis dans le Shulchan Aruch. Il y a un avis qui dit qu'il faut faire la bracha chez Akol sur chaque boisson chaque verre que tu bois durant le repas. Un avis qui dit qu'une fois ça suffit. Un avis qui dit que pas besoin. Vu qu'on a un safek brachot, on a un doute si on fait la bracha oui ou non, donc on ne le fait pas. Mais après la bracha, tu as quand même un doute. Peut-être que tu bois maintenant sans bracha. Le mieux, c'est boire, si tu bois du vin pendant le repas ou avant le repas, tu penses rendre quitte tout ce qu'il y aura, toutes les boissons qu'il y a dans le repas. Et comme ça, tu as réglé le problème. Ok, on a vu le kiddush, on continue.
Les Ashkenazim, ils refont la bracha.
Oui, Ashkenazim refont pour chaque verre de vin, ils refont la bracha. Nous pas, donc on devra penser prendre quitte le deuxième verre. Après le kiddush, c'est bien d'avoir dans sa poche des bonbons qu'on donne aux enfants pour les stimuler maintenant, parce que les pauvres doivent tenir maintenant deux heures pour la suite des opérations du CEDER. Donc ça vaut la peine d'avoir sa cargaison de bonbons pour réveiller les enfants. C'est la faculté de réveiller des bonbons est absolument stupéfiante. Celui qui est affamé, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on doit manger la matzah avec appétit. Donc c'est bien d'être affamé. Celui qui est trop affamé, il ne peut pas, il a mal à la tête, il a jeûné toute la journée, il ne peut pas. Alors il est permis, entre le kiddush et le karpas, karpas c'est une opération qu'on va faire tout de suite, qu'on verra dans quelques minutes, entre les deux, il est permis de manger jusqu'à kabetza, c'est-à-dire jusqu'à 54 millilitres de nourriture. Prends un œuf, prends un peu de riz, ce que tu veux, c'est bien, tu fais la bracha avant, sur du riz, chacun de barreau sur de l'œuf, et tu fais la bracha, la dernière bracha après que tu aies mangé. Si tu as mangé plus d'une quantité de 28 millilitres, la boîte d'allumettes universelle, son volume, tu fais la bracha, tu fais la bracha après. Donc, tu mangeras ce que tu veux. Si tu as mangé 28 millilitres, tu fais la bracha, et pas plus que 54 millilitres. Ça, pour les gens qui ont faim. Après, on ne mange plus jusqu'au repas. Et ça, c'est seulement pour les gens qui ont faim. C'est possible qu'on ne mange pas du tout. Entre le kiddush et le kerpas. Après le kiddush, on a urechatz. Urechatz, on va saver les mains. Pourquoi on va saver les mains? Pas pour manger, parce qu'on ne va pas manger maintenant le pain. On va prendre un morceau de légumes qu'on va tremper dans de l'eau. Il y en a qui prennent de l'eau salée, il y en a qui prennent du vinaigre, il y en a qui prennent du jus de citron. Dans tous les cas, il faudra que dans ces jus de citron, et dans ces vinaigres, et dans ces eaux salées, qu'il y ait une majorité d'eau. Parce qu'il y a une loi que chaque juif est censé faire, et nous le faisons chaque fois, lorsqu'on mange n'importe quel plat qui est mouillé dans un des sept sortes de liquides, il y a le vin, yad shachat dam, le vin, le sang, l'huile d'olive, le lait, la rosée, le miel, miel d'abeille, et même c'est maïm, l'eau. Quand tu manges n'importe quel aliment qui est mouillé par un de ces sept liquides, il est nécessaire d'après la loi de se laver les mains sans faire la bracha. Il y a des poskim qui disent qu'il faut faire la bracha, et qui disent que non, vu que c'est un safek, on ne fait pas la bracha. Donc, là, on va se laver les mains, parce que juste après, on aura le carpas, on va prendre un morceau de légumes qu'on va tremper dans cette eau. Et vu qu'il est mouillé, donc on va se laver les mains. Tout le monde se lève, va se laver les mains, et le gosse s'attend à ce que maintenant, on fasse une salade d'aïm, on va manger le pain, du coup, on prend un petit morceau de céleri. Alors ça, on arrive à la troisième étape, kadesh ochatz, carpas. Carpas, c'est du céleri. En hébreu, carpas signifie céleri. Ce n'est pas obligatoire du céleri. On va prendre n'importe quel légume. Le but de l'opération, c'est faire boré priya adama. On va faire boré priya adama la bracha là-dessus. On va penser et rendre quitte le maror qu'on mange durant le repas. Le maror, vu qu'il ne vient pas avec le pain, c'est une chose, on le mange tout seul comme ça, ce morceau de salade. Alors il n'est pas rendu quitte d'après certains poskim dû par le pain, par le hamotzi. D'après certains poskim, il est oui rendu quitte. Pour nous sauver du problème, on prend un morceau de légumes et on fait boré priya adama, on pense rendre quitte le maror. Ça sera dans 2 heures, mais on pense le rendre quitte maintenant. On se lave les mains, on prend le carpas, on le trempe dans l'eau, on fait boré priya adama et on pense rendre quitte le maror. Comme je dis, on peut prendre n'importe quel légume, parce que boré priya adama, ça marche pour n'importe quel légume. Mais d'après la mystique juive, il faut prendre du carpas précisément, du carpas du céleri. Il y a des raisons très profondes là-dedans. Nous, on ne connaît pas ces raisons. Le midrash est une chose sympathique. Carpas, j'ai déjà expliqué dans la Kéhara, carpas, mecher pas, ça rappelle la vente de Yosef pour une tunique passe qui avait des passim. Passim, ce sont des bandes. Si possible, on prendra donc, pas si possible, il est nécessaire de prendre du carpas moins de kazaït. On ne veut pas faire bracha achrona. On veut faire maintenant boré priya adama pour rendre quitte le maror. Donc si tu prends une quantité de carpas trop grande, tu devras faire bracha achrona. Dans 2 heures, tu vas manger la suite. Si tu as mangé, j'ai mangé maintenant une chose de kazaït, une boîte d'avolume d'une boîte d'allumettes, je dois faire bracha achrona. Combien de temps après? Au maximum, je peux attendre 1h12. Vu qu'il y a beaucoup de chances que tu vas dépasser 1h12, alors tu ne peux pas maintenant manger kazaït, parce que si tu manges kazaït, il faut faire bracha achrona. Et si tu fais bracha achrona, la bracha rishona que tu as fait, la première bracha que tu as fait, elle est plus valable pour le maror. Compliqué, vous comprenez, ou c'est trop compliqué?
On va faire moti après sur la matzah.
Oui.
Or, après, ce sera donc le birkat amazon, il acquittera tout le
bracha qu'on a fait.
Oui.
Et comme on va recontinuer,
si... on va manger le maror après, donc il y aura...
Non, mais si je mange maintenant, moi je mange maintenant un peu, je mange maintenant un concombre. Tu manges un concombre entier. Tu peux faire maintenant bracha achrona sur le concombre dans 3 heures?
Non, mais quand j'ai mangé du maror dans moins de 2 heures, ça va.
2 heures! 2 heures! T'as mangé un concombre, tu fais bracha achrona dans 2 heures, bracha le batala.
Dans moins d'une heure, j'ai mangé du maror.
Mais non, t'as une agada qui fait au moins 1h30. Avec la matza, avec le truc, avec le meditate time. Oh, t'as un programme, mon vieux. Alors, si tu fais bracha achrona, si tu vas manger maintenant kazaït de céleri, tu rentres dans un problème. Tu dois faire bracha achrona. Ce bracha achrona, tout le pourquoi du carpas, je rentre quitte maintenant le boré priya adama du maror, il est fiché en l'air. Donc, il est nécessaire de prendre du carpas, même qu'on a faim, on en prend peu. Maintenant, combien? Moins de kazaït, moins de 28 millilitres. Maintenant, sachez qu'il y a une marque loquette, c'est combien kazaït? Le Rambam dit, c'est 19 millilitres. Ce qui veut faire mieux, il prendra moins de, il prend un tout petit morceau de céleri minuscule, moins de 19 millilitres, rien, comme ça, et il le trempe, bon, après la main, il prend son petit... Ok, ça c'est le mieux. C'est clair?
C'est donc de l'eau salée qu'il faut le tremper?
L'eau salée, ou de l'eau du citron, ou du vinaigre, mais si c'est vinaigre et, ou jus de citron, il faut qu'il y ait une majorité d'eau, parce que le jus de citron et le vinaigre ne sont pas considérés comme un des sept liquides.
L'eau, le salée, on peut la préparer pendant la fête?
On peut, c'est mieux de préparer avant. Si c'est Shabbat, on peut pas. Si c'est la fête, on peut. Mais c'est mieux de préparer, on prépare tout avant que tu as le temps d'aller maintenant préparer l'eau salée, on prépare tout avant, si possible. Maintenant, est-ce qu'on mange le céleri couché sur le côté, oui ou non? Marloquette. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux. Tu prends un peu tout droit et un peu couché. Comme ça, tu as fait les deux avis. C'est bon? Comme ça dit le Rabbi Ben Abba Shaoul, Zatzal. Après, on a Yahatz. Yahatz, on prend la matzah qui est au milieu des trois matzot et on la partage en deux. La petite tranche, on la met de nouveau entre les deux matzot qui étaient restantes. Et c'est sur celle-là qu'on fera la mitzvah de matzah, de manger la matzah dans le repas. Et l'autre, la grande moitié, on la cache. La petite, la matzah, ça nous rappelle la sortie d'Égypte. La grande qu'on cache, ça nous rappellera la Géoula très prochaine qu'on attend, qui est cachée. C'est pour ça qu'on la cache, d'accord? On la cache, elle est cachée, on la met dans une sorte de nappe, et les enfants se bagarrent pour la voler. C'est important quand même qu'ils nous la restituent, et ils nous font du chantage, qu'on ait des cadeaux pas possibles, pour qu'on leur donne pour qu'ils nous rendent cette Afikoman. Alors, c'est l'Afikoman, ça correspond à la Géoula Atida, qui est cachée, on ne sait pas quand elle viendra, qui sera plus grande que celle d'Égypte. Ça, c'est le yachatz. D'après la Kabbalah, c'est bien si possible. C'est très dur avec les matzot actuelles qui sont dures. Ceux qui ont des matzot qui sont molles, il y en a ici pas mal en Israël, les minhagim, beaucoup de sfaradim, d'avoir des matzot molles. C'est bien, d'après la mystique juive, de faire une forme de dalet. Pour vous, c'est à l'envers, dalet comme ça, et de vav. Et ensemble, ça fait la lettre hey. Hey qui correspond à la sphère de la bina. Donc, tu as un dalet et un vav. Ça fait hey. Le dalet sera plus petit que le vav. Ça fait un biscorne, ça fait comme ça, et un grand comme ça. Ce grand comme ça, ça fait comme un, tu le mets de côté. Le dalet, qui est un peu biscornu comme ça, tu le remets entre les matzot pour faire la mitzvah de la matzah durant le repas. Ça, c'est la première mystique juive. Ceux qui peuvent le faire, tant mieux pour eux, comme ça dit le Ben Ishraï.
Comme ça, parce que c'est pas évident de
découper. Ah ouais, ouais. Ça ne marchera pas, ça se casse. Si tu as des molles, ça marche. Des fois, tu as des matzot qui sont déjà... On parle de galettes qui sont dures, mais des fois, vu qu'ils ont passé le roller, alors des fois, elle est déjà presque brisée. Alors, ça arrive comme ça, une fois une année, ça m'arrive. Mais des fois, tu la casses complètement, et c'est dommage. Donc, si c'est molle, ça va. Si c'est pas molle, tant pis. Si possible, oui. Sinon, c'est un bon truc, d'après la mystique juive, c'est pas du tout obligatoire. Et après cela, messieurs, commence la mitzvah. On a deux mitzvot de Horaïta ce soir. La matzah, et la matzah, on la mange, c'est terminé. Il y a une mitzvah qui est longue, grande, énorme. Ça s'appelle Magid. Magid, il y a une mitzvah dans la Torah, Zachor, et ayom hazeh, asher yatzatem, memitzrayim. Souviens-toi du jour où tu es sorti d'Égypte. Mitzvah assez de la Torah. Elle concerne spécialement les enfants, comme il est marqué, Vigatal Binham. Mitzvah assez de la Torah, d'enseigner à nos enfants qu'on est sorti d'Égypte. Donc d'abord, on pense qu'on fait le mitzvah de la Torah. Si on ne pense pas, on ne fait pas la mitzvah. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, chapitre 61, que c'est le mitzvah de la Torah, si on n'a pas la cabane à la pensée qu'on fait le mitzvah de la Torah, on n'est pas rendu quitte. Donc il faut penser, je m'attends à la mitzvah de Horaïta, de raconter à mon fils qu'on est sorti d'Égypte. Le Zohar, il dit que Dieu réunit tous les anges. Et la table monte avec tous les propos qu'on a racontés sur la sortie d'Égypte. Et ils ont regardé comment mon peuple raconte maintenant ma gloire. Et quand on dit la Haggadah, avec entrain, avec joie, le Shlach Kadosh dit qu'il va aussi avec crainte et peur, alors ça renforce toutes les armées célestes de Kadosh Baruch Hu. Il y avait un grand Admor, j'en ai parlé une fois, c'était le Admor de Lelov, le Rabbi de Lelov, c'est un grand ami de Baba Salé, un homme énorme. Il faisait sa Haggadah de Pessah, je vous l'ai dit, il se levait en transe comme ça, il commence à rouler sur le mur en disant toute la Gada comme c'est une guerre énorme. Ce qui se passait, c'est au niveau, on ne se rend pas compte ce que c'est énorme. La même lumière de sortie d'Égypte, elle est là. Et on la commence dans ces mitzvot, surtout les mitzvot de Horaïta, la Matzah et la Gada de Pessah. D'après l'Halakha, on ne parle pas durant toute la Haggadah d'autre chose que de la Haggadah. C'est-à-dire tout ce qui a à voir avec la sortie d'Égypte. La Halakha de sortie d'Égypte, les lois, les Kiddushim, les Midrashim, tous les commandes chita sur sortie d'Égypte. Mais parler maintenant de politique, parler du repas, parler du goût de la matzah, parler du prix de la matzah, interdit. Que en cas de force majeure, permis, il y a un cas de force majeure, oui, je sais pas, ta mère te demande maintenant comment vas-tu mon fils, alors, comme ça se fait pas, d'accord? Pour une mère qui boude avec, tu veux dire, maman, ça va être un baouch Hachem, regarde le bouchidouche que j'ai, hein, tu... d'accord? Mais d'après la loi, il est interdit de parler autre chose...
Même de Torah ou d'autre chose?
Même de Torah, on parle que de la Haggadah Pessah. Les anges viennent maintenant, ça c'est de la Torah. Alors, Ovadia Yosef aussi interdit de fumer. Enfin, il déconseille beaucoup de fumer. Eh, c'est pas cavote, t'es là. Est-ce qu'on dit la gada couché ou debout? Comme on veut. Si on veut coucher, si on veut debout. Debout, c'est-à-dire droit sur sa chaise. La matzah, on a déjà expliqué qu'il y avait une mitzvah de manger beaucoup de matzah le soir de Pessah. Plus tu en manges, plus tu fais de la mitzvah. Idem, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah que plus on en fait, tout celui qui rallonge, raconte la sortie d'Égypte, c'est meshubar, c'est digne de louange. Non seulement c'est digne de louange, messieurs, mais c'est une mitzvah assez de la Torah. La Halakha, elle dit qu'on doit étudier la Torah, on doit raconter la sortie d'Égypte jusqu'à ce que le sommeil nous attrape. Robinson, je viens de voir ça cet après-midi, il dit, même si tu t'endors habillé, ça fait rien. C'est le mitzvah d'Araban, il dit, le mitzvah de la Torah, d'étudier la sortie d'Égypte durant le maximum. Plus tu rajoutes, mieux c'est. Mitzvah d'Araban, jusqu'à ce que tu t'endormes. L'année passée, mon voisin, il a organisé à 2h du matin, avec tous les enfants de l'immeuble, si pourri cette mitzvah, mes enfants, allez, moi j'étais déjà, après les 4 verres que je bois de vrai vin, j'étais à moi vraiment... Le sommeil te prend, on essaie de tenir, parce que il y a une réalité un peu bizarre. C'est que, par exemple, la nuit de Shavuot, on reste réveillé toute la nuit. Pourquoi? C'est un midrash qui dit que Béné Israël, ils ont dormi et Dieu les a réveillés pour aller leur donner le Mont Sinaï. Pour réparer ça, alors on reste réveillé toute la nuit. Hoshana Rabba, on dit qu'on est jugé la nuit, c'est un minak, c'est marqué dans le Zohar que c'est bien de rester étudié, les chassidim, rester étudié toute la nuit. Et tout un Israël est réveillé toute la nuit. Le soir de Pessah, tout le monde finit le dernier verre de vin, Khadgadia, bloup, bloup, au lit. Là, c'est une mitzvah de la Torah. Une obligation des Rabbanan, de raconter sortie d'Égypte jusqu'à ce que tu t'endormes, l'artov signifie que tu as été kidnappé, tu es kidnappé par le sommeil. Comment on raconte, comment commence la galette de Pessah? Que Rabbi Akiva, Rabbi Azarbanazar, etc., tous ils étaient, les quatre, Abnei Brak, ils ont étudié Yetzat Mitzrayim jusqu'au petit matin, les ailes sont venues, le temps du chemin est arrivé, le soleil se lève. C'est comme ça qu'il faut faire si possible. Mon Ravouta qui était mythe m'a raconté que eux, toute la nuit, ils restent réveillés, ils chantent Shir HaShirim, chaque verset des heures, après ils font Michelet, après ils sèvent au net, ils sèvent pas, ils sont déjà là, ils vont au net, et après les net, ils lisent encore tout un autre livre. Enfin, très, tout, y a pas à dormir. Pas dormir pour eux. Et nous, tout le monde va dormir. Donc, si possible, le maximum, raconter durant la soirée, durant la gada, pendant le repas, après le repas, c'est la grande mitzvah de la soirée. Minuterie, pas de minuterie. On laisse toute la nuit, on laisse la lumière. L'essentiel, comme j'ai dit, de cette mitzvah, c'est avec les enfants. Les enfants, c'est notre futur, c'est l'éternité d'Israël. Le peuple d'Israël compare à une pierre, la pierre ne change jamais. La pierre se dit en hébreu « Even ». « Even » dit Rashi dans le verset, dans Parashat Vayechi, les brachot que donne Yaakov à Yosef. Alors c'est marqué « Roé Even Israël ». Le peuple d'Israël compare à une pierre, Rashi dit là-bas « Even », c'est les contractions du mot « Av Ben », père, fils. Notre éternité, elle passe par le fait que le père enseigne à son fils qu'on est sorti d'Égypte. « Ce soir, mon fils ». Sache, nous sommes devenus le peuple. Dieu nous a choisis parmi tous les peuples pour donner la Torah. On aurait resté en esclavage de la matérialité, dans l'étroitesse de la matérialité, et Dieu nous a sortis pour nous donner l'éternité. On est un peuple éternel. Et il faut raconter à son fils dans le langage qu'il comprend. Un enfant de 4 ans, alors c'est avec, en faisant le clown. Un enfant de 18 ans, c'est avec des bourridouchim. Mais il faut adapter. L'essentiel, c'est faire vibrer les enfants. Les souvenirs qu'ils ont du Seder, ça reste toute leur vie. Quand demain, il y aura une épreuve de oui ou non Torah, l'intensité que tu auras donnée dans le soir du Seder, ça lui restera, c'est imprimé dans son subconscient, dans son âme pour toujours. C'est la grande mitzvah, c'est ça. Le peuple juif est devenu peuple à la sortie d'Égypte. C'est ce soir-là que c'est passé. Et cette lumière, comme je redis, elle est arrivée à ce moment-là. Et on veut la faire passer dans nos enfants. On fait tellement de grandes mitzvahs. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait le Karpas, qu'on fait deux fois l'Netilat HaDaim, qu'on verra après, on prend la Kiara, le plateau, on le fait partir, on fait revenir, Manisha, toutes ces choses-là, rien que pour les enfants qui soient là. C'est le but du peuple d'Israël, ce soir-là. On n'a pas de nuit aussi grande que cette nuit-là. Comme je dis, on dit le Hallel, on doit rêver toute la nuit, c'est la seule fois où on doit être réveillé, c'est une mitzvah de Rabban obligatoire, si possible de rester toute la nuit. Donc, c'est une nuit importante. Tout cela pour nos enfants, parce que là, on est sorti d'Égypte.
Quand on est en train
d'accomplir ces mitzvot, j'ai dit, mitzvah de la Torah, de Gata Lebincha, tu enseigneras ton fils. Et Zachor, souviens-toi du jour où tu es sorti d'Égypte.
On ne peut pas faire durer si longtemps, parce qu'il n'y a pas une heure limite pour manger la ficoman.
Alors le récit se fera, la Agada, il faut être intelligent pour voir combien de temps tu laisses pour le repas et pour la ficoman, pour le Hallel, parce que si possible, il faut finir le Hallel avant Chatzot, mais tu as toute la nuit après toi, mon cher ami. Les femmes aussi sont obligées de faire, on sait, cette mitzvah. Elles aussi étaient dans ce miracle, c'est une mitzvah des Rabbanan pour elles. Il faut leur expliquer. Elles ne sont pas là pour attendre comme ça qu'ils vont amener la soupe. Elles sont là pour vivre aussi le soir du Seder. Donc il faut leur expliquer. Et messieurs, il faut que l'homme, pour que l'homme puisse expliquer à la femme, il faut que lui aussi comprenne. Qui comprend la Haggadah ? Hein ? Il faut l'étudier avant. Il faut étudier. C'est pas si long. C'est pas si long. Au moins... Allez, enlève tous les chidouchim midrashim. Ce qui est marqué, au moins que ça, on ait compris. C'est une braïta, c'est des commentaires sur sortie d'Égypte. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de lire. Donc l'homme, avant, il va préparer, bien, savoir qu'est-ce qu'il va dire à sa femme, qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants, qu'il puisse traduire. Il y a celui qui ne comprend pas l'hébreu, qui lise en français. Qui lise en français. Il n'y a pas de mitzvah d'incantation dire en hébreu. D'accord. Celui qui comprend en hébreu, qui lise en français. Les femmes qui comprennent pas l'hébreu, on leur dit en français, on leur traduit. Si personne ne comprend l'hébreu, alors on fait tout en français. Peut-être quelques passages, on dira en hébreu, matzah, maror, karpas, d'accord, mais l'essentiel de la Gada, à quoi ça sert? Le but, c'est une mitzvah éducative. On n'éduque pas en hébreu si on ne comprend pas l'hébreu. Ça ne sert à rien de dire blablabla à ton fils. Tout se fait en français.
Est-ce que pédagogiquement, je peux faire un résumé, par exemple?
Oui, pour les enfants. Mais la femme, si possible... Alors, la Gada dit que celui qui a dit Pessah, Matzah ou Maror, il est rendu quitte de la mitzvah. Pessah, Matzah ou Maror. Mais c'est pauvre. Fais plus. Il y a un chidouche que dit le Rav Yosef, on peut être rendu quitte de la Gada aussi en écoutant. Quelqu'un qui lit, si moi je pense être rendu quitte, c'est valable. Mais attention, un homme pourra rendre quitte des hommes et des femmes, mais une femme ne peut pas rendre quitte les hommes. Parce que pour l'homme, c'est une mitzvah de la Torah. Pour la femme, c'est une mitzvah des Rabbanan. Or, un des Rabbanan ne peut pas rendre quitte un... de la Torah, un de Horaïta.
Même des fois, c'est pas limpide. Hein. Il y a une partie, c'est l'histoire.
Mais la Gada, c'est un commentaire, c'est pas une chose aussi facile qu'il faut comprendre. Si on prend un verset de la Torah, après on commente chaque mot. Donc il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre le système de la Gada. Je ne vais pas faire un cours là-dessus maintenant, peut-être on fera plus tard. Et on prend des versets, il y a toute une partie, une suite de versets qu'il y a dans la Torah. C'est lorsqu'on amène des bikurim. On faisait un grand louange, le Bikurim c'est les prémices, on faisait un grand louange à Dieu. On lisait un texte, et ce texte est marqué dans la Torah. Quel texte devait dire la personne qui amenait ses prémices au temple? Et là, on dit, Dieu, j'étais Arami Ovedavi, j'étais le fils d'un Babatrela, j'étais idolâtre, et après j'étais Yaakov, il avait failli se faire exterminer par son beau-père Lavan, après j'étais en Égypte, ben j'étais en esclavage, et tu m'as sorti avec ton grand bras. Et pour chaque mot, la Gada, elle prend toutes ces quelques versets, et chaque mot, elle va le commenter. C'est ça la Gada, en gros. C'est ça la Gada. Après, tu as encore deux chapitres de Hallel, et terminé. Donc il faut comprendre comment fonctionne et quelle est l'articulation de la Haggadah, comme je vais t'expliquer maintenant. Alors comment commence la Haggadah? On commence avec un verset en araméen, « Ha lachmania, voici le pain de pauvreté qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. » On prend le pain de pauvreté, c'est donc la tranche qui est au milieu, qui est déjà coupée, la tranche, et on la montre. Ou bien autre solution, on prend toute la kéhara, tout le plateau, et on le soulève. Ha, l'Arman, il y a chacun fera cela avec sa coutume, comme il a la coutume de le faire. Dès qu'on a fini ce verset de l'Arman, on repose la matzah, ou le plat, et on fait deux opérations pour réveiller l'étonnement des enfants. Première opération, on prend le plat, et on dit, au revoir, prenez le plat. Tu peux rajouter après, fini. Les gosses, ils sont comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un bon plat, comme ça, et tas de choses. On prend, on termine, on rentre, on le met à la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Première chose. Deuxième chose, on reverse un verre de vin. Je vous rappelle, si possible, il faut le rincer à l'eau, et quelqu'un d'autre nous le verse. Avec deux fois qu'il douche, il est habitué qu'on fait un verre de vin. Il y a un deuxième verre de vin, qu'est-ce qui se passe? Et là, les enfants se lèvent, c'est pas d'enfants les femmes, c'est pas les femmes les hommes, et on dit Manishtana, qu'est-ce qui est différent cette année? Il faut susciter la question. On fait ces deux choses pour susciter la question. On déplace le plateau. Il y en a qui n'ont pas besoin d'amener à la cuisine, on peut le poser de l'autre côté de la table. Ce qui est important, c'est que les enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Et on reverse les verres de vin. Et donc, on a susciter la question, et on pose les quatre questions de Manishtana. Dès qu'on a fini Manishtana, on ramène le plateau. On donne aussi aux enfants quelques bonbons pour les réveiller, parce que maintenant, il faut répondre. Et il faut faire attention, l'essentiel commence avec la réponse. Là, on fait la mitzvah de la Torah, de Igatal Vinchai. Tu as posé la question, il faut répondre maintenant. Tu commences et tu lui dis, Avadim Ainu, on était des esclaves, à Pharaon, ben Mitzrayim, en Égypte. Et si Dieu ne nous a pas sortis là-bas, alors nous et nos enfants, on sera encore restés des Avadim jusqu'à aujourd'hui. Et là commence toute la Agada. Que le gosse, il comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est l'acte essentiel du début de la Agada qu'on doit faire comme il se doit.
On n'a toujours pas vu la deuxième coupe de
vin. Non, la deuxième reste qu'à la fin de la Agada. Maintenant, durant toute la Agada, le plat avec les matzot, on les a couverts. Quand on fait le kiddush, on les a couverts avec une petite nappette. Après, on dégage. On dégage les matzot, qu'elles soient ostensibles, vues de tous, pas couvertes, découvertes, et on fait toute la Haggadah. Dans la Haggadah, il y aura deux passages où on soulève les verres de vin et on dit tous ensemble quelque chose. La première fois, c'est Vehi Shehamda, jusqu'à Bakujou Baruch Matselanu Miyadam, c'est 2-3 versets. Quand on soulève le verre de vin, alors on recouvre les matzot. Après toute la fin de la Haggadah, c'est la fin, on fait une bracha, Lefichach. C'est pour cela que nous devons remercier, louer, etc. Dieu, là, nous, on prend les verres de vin, parce qu'on va prendre les verres de vin et on va le boire. Là aussi, on recouvre les matzot. C'est de moment-là, donc, on recouvre les matzot, on soulève les verres de vin. Maintenant, durant la Haggadah aussi, le maître de maison, il y a un moment où on rappelle les 10 plaies. On dit, dame, sang, ve'esh, du feu, timon, tachan, des colonnes de fumée. Quand on dit ces trois mots, on verse du vin dans, si possible, un ustensile de mauvaise qualité. Le Ben Israël dit, il faut le casser même si possible. D'accord? Tu prends un seau, tu prends le seau du sponja, parce que ce sont des forces très impures qui sont en train de partir maintenant. Ce vin-là, on va vite et on le verse dans les toilettes et on tire la chasse d'eau. C'est un vin porte-malheur, le vin qu'on a mis dans un récipient de mauvaise qualité. De notre verre. Le maître de maison a le verre numéro 2 qu'on lui a rempli et il fait comme ça. Il verse trois fois. Dam, ve'esh, ve'timorot hashan. Après, il cite les 10 plaies. Voici les 10 plaies que Dieu a amenées sur les Égyptiens. Dam, Tzardea, Kinim, etc. 10 fois. Après, tu dis, Rabbi Yuda donnait un signal, Datsar, Adash, Be'achav. Ça fait combien de fois tu as versé? 16 fois. Et le détruit, tu verses tout. L'Ashkenazim, ils font avec le petit doigt comme ça. Nous, on fait tout le verre, tu verses tout ton verre. Tu prends vite le seau d'eau, le seau de vin, dans les toilettes, tu tires la chasse d'eau.
C'est quel verre? C'est le verre qu'on s'est rempli, le deuxième?
Ouais. Et on nous reverse du vin pour le deuxième verre.
Et alors, tout le monde?
Non. Il n'y a que le maître de maison qui fait cette opération. Et vu qu'il lui a vidé son verre, on remplit son verre de nouveau. Après cela, messieurs, nous finissons la Haggadah et tout le monde hop sur le côté, on boit le verre de vin d'un coup si possible. Et là, s'arrête la Haggadah et on commence le repas avec la grande mitzvah de matzah que nous traiterons demain. Yom Sashem. Baruch Adonai, Amen.